cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe le 9 mai de l'an 2001 à Saint-Jodard.
Nous avons vu comment l'un était exalté chez Platon, comment Aristote est revenu à l'expérience. C'est très curieux, hein ? Il faut mettre là en parallèle le point de vue qui se concrétise chez nous, le point de vue mathématique et le point de vue expérience. Et chez les Grecs, il y a eu Parménide, Héraclite, il y a eu Platon et Aristote. Cette dualité, je crois, a toujours existé dans l'histoire de la philosophie en Europe, chez les pères de l'Église. Chez les pères de l'Église, il y avait la foi. Alors la foi a corrigé beaucoup. La foi corrige Platon. On ne peut plus dire le divin Platon. La foi nous empêche de dire ça. Parce que Platon n'est pas un père de l'Église. Alors que Plotin dit le divin Platon. Il le dit en grec. C'est très significatif, ça. Et je crois que c'est très intéressant parce que c'est peu les deux formes de l'intelligence. Il faut saisir ça comme très profondément. C'est pas une fantaisie. C'est les deux sommets de l'intelligence. Le Mont Blanc et l'Himalaya, vous voyez. Alors quand vous mettez le Mont Blanc à côté de l'Himalaya, vous comprenez que c'est le petit-fils qui regarde son père de loin. Et quand vous regardez uniquement le Mont Blanc, vous dites c'est bien le Mont Blanc. Et au fond, nous avons les deux. T'as. Nous avons perpétuellement l'un et l'être. C'est comme les deux sommets de notre intelligence. Ça se voit très nettement dans la philosophie grecque. Et ça se voit aussi après, chez les pères de l'Église. Ce serait très intéressant de voir chez les pères de l'Église ce point de vue du néoplatonisme et des stoïciens qui dominent très souvent. Et la foi les corrige. Chez saint Augustin, c'est remarquable. La foi le fait revenir à une espèce de réalisme. Quand vous lisez saint Augustin, ne le lisez pas seulement comme quelqu'un, mais voyez le sous-jacent néoplatonicien. Vous voyez combien ça freine à la place de l'aider, ça le freine. Et quand on voit la discussion entre Thomas et saint Augustin à propos de la grâce, puisque c'est à propos de la grâce qu'il faut le regarder, c'est très très significatif. Alors, je n'insiste pas plus sur Aristote, mais pour nous, l'exaltation de l'un sera très subtile. Il sera chez les phénoménologues. Husserl parle de l'hypoké. L'hypoké, chez Husserl, c'est la mise entre parenthèses de l'être. La mise entre parenthèses de l'être. Vous voyez ? Alors que nous disons que toute la philosophie repose sur le jugement d'existence. C'est très audacieux, et en même temps c'est très clair. De dire, c'est justement à cause de cette clarté que c'est audacieux. Husserl était matheux. Il a fait sa thèse en mathématiques. En mathématiques, je comprends la mise entre parenthèses de l'être. Pour libérer l'être mathématique. L'être mathématique est gêné par l'être existentiel. Il est gêné. Le mathématicien n'est libre que lorsqu'il a mis entre parenthèses l'être. Alors, il est libre de découvrir le primat de la relation. Ce n'est plus la substance, c'est la relation. Et la relation de raison, pas entièrement. Les mathématiques, les grands mathématiciens ne sont pas des logiciens. Ils ont des intuitions. Chez les mathématiciens, vous savez bien, il y a des mathématiques beaucoup plus logiques, puis le point de mathématiques très intuitif. Et donc, l'être mathématique ne se ramène pas à l'être de raison. Il y a quelque chose d'autre. C'est difficile à préciser. Je me souviens que j'avais étudié ça très longuement avec le père Gérard Delaurier, qui était un matheux. Vous savez, quand il faisait sa thèse de mathématicien étant dominicain, quand je le voyais, je l'interrogeais sur sa thèse, je lui demandais combien de personnes pourraient comprendre sa thèse. C'est intéressant de demander ça. Alors il me disait, mais très simplement, tout à fait, oui, je crois qu'il y a 3 mathématiciens qui pourront comprendre. Et il en était sûr, convaincu, que ce qu'il disait au point de vue mathématique allait tellement loin que ces 3 mathématiciens qui pourront comprendre. Les autres ne comprendront pas. Ils respecteront, ils diront oui, c'est possible, mais ils ne comprendront pas. Et le père Girard a fait des articles qui m'intéressaient beaucoup du reste sur l'être mathématique. Qu'est-ce que c'est que l'être mathématique ? La mise entre parenthèses de l'être existentiel, de ce qui est. L'être mathématique, c'est un être entre l'être réel et l'être de raison. Il est entre les deux. Un pied d'un côté, un pied de l'autre. Mais il penche plus vers l'être de raison. Mais il est entre deux. Alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est l'un qui domine. Bon, ce n'est pas l'être. En réalité, s'il fallait reprendre cet article, il faudrait montrer que c'est par l'un mathématique qu'on peut juger la qualité de l'être. Donc, il est relatif à l'un et il se définit par l'un. Parce que si l'un est avant l'être, l'être se définit par l'un. Si l'un est après l'être, c'est l'être qui définit l'un. Alors, Husserl est passé de sa thèse mathématique à la fœmologie. Ce qui est aussi très intéressant de voir que la fœmologie, bon, l'attirait, de voir que les mathématiques ne lui suffisaient pas. Pourquoi ? Parce qu'il voulait comprendre ce qu'est la personne, ce qu'est le jeu, le sujet. Et il voulait comprendre, au fond, il y avait le désir de montrer l'existence de Dieu. Alors, il y a tous les écrits du Serle inédits, qui sont ces manuscrits, qui sont à Louvain. C'est la richesse du joueur. Il s'est paru en partie dans la revue de Louvain en montrant la valeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'un conduit à la valeur. Ce n'est plus l'être premier, c'est l'un premier que nous considérons par le point de vue de la valeur. Alors, c'est très important pour nous de comprendre que dans la fœmologie, ce qui est premier, c'est l'un, ce n'est pas l'être. C'est la relation de ce qui est vécu. Le vécu le plus parfait, c'est une relation. Relation créée par l'esprit. Créé par l'intelligence, créé par la volonté, par l'amour, la conscience. La conscience est une relation, n'est-ce pas ? C'est à l'intérieur de ce qu'on comprend, on saisit la relation. Je crois que pour nous, c'est très important de comprendre que la fœmologie exalte l'un de cette manière particulière, c'est que l'un ne peut être premier que s'il est vécu par l'intelligence, si j'ose dire, s'il est pensé par l'intelligence. Or, l'un pensé par l'intelligence implique la négation. Et ceci explique comment ce courant rejoint tous ceux qui mettent la négation avant. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que le fait d'avoir renversé, je pose ça en topique, on essaiera de comprendre ça au terme, en topique, c'est-à-dire en interrogation, le fait d'avoir, à partir du XIVe siècle, Occam, le fameux Occam, est le premier, je crois, qui dit explicitement que la négation est avant l'affirmation. Or, c'est quelque chose de très important, puisque c'est l'ordre de l'esprit. L'ordre de l'esprit fait que, traditionnellement, c'est-à-dire selon Aristote, l'affirmation est avant la négation. Et nous avons un signe très net dans le langage. Vous niez ce que vous affirmez. Vous ne niez pas le réel. Le réel ne supporte pas la négation. Tandis que tout ce que vous pensez supporte la négation. Et on veut mettre la négation en premier. Donc vous voyez qu'on ne voit plus le réel. c'est pas le réel qui est premier, c'est la pensée. Alors, quand la pensée devient première, la négation devient avant l'affirmation. C'est très curieux cela. Et si la négation est antérieure à l'affirmation, est-ce que l'un n'est pas antérieur à l'être? Oui, je pose ça comme question. C'est bon de voir l'importance de cette question de l'un, de voir que ça draine de fait tout un mouvement de pensée qui passe par Occam, les théologiens. Saint Thomas affirme que la négation à l'égard de Dieu est plus certaine que l'affirmation. Dire Dieu n'a pas de corps, c'est absolument certain. Dire Dieu est absolument simple, il faut toute l'analogie pour l'affirmer. Donc, la certitude est moins grande. Et c'est vrai. On est passé de cette affirmation de saint Thomas, qui est le point de vue du jugement, en disant, donc, la négation est antérieure à l'affirmation. Dans la laïcité, dans la manière de laïcité, la laïcisation de la théologie a fait qu'on affirmait que la négation est avant l'affirmation. C'est un vieux reste de théologie, ça. C'est très curieux. Vous voyez, une théologie qui se dégrade ne regarde plus Dieu, mais l'homme. Et elle applique ce qu'on dit pour Dieu à l'homme. C'est Feuerbach qui fait ça. C'est-à-dire, lui, il dit que tout ce qu'on affirme sur Dieu, c'est son nostalgie. En réalité, c'est nous. C'est nous qui portons en nous le désir d'infini. C'est nous, c'est notre esprit qui est infini, c'est pas Dieu. C'est notre esprit, Dieu n'existe pas. Mais l'infini, c'est nous, dans notre esprit. Donc toutes les affirmations que nous avons de Dieu proviennent de nos nostalgies. C'est en réalité l'homme qu'on cherche. Et c'est la grandeur de l'homme qu'on cherche. Alors, on va jusqu'au bout. Comme dans la connaissance de Dieu, la négation est plus certaine. Ah, dans la connaissance de l'homme, c'est la même chose. La négation est plus certaine. C'est la certitude qui passe avant l'évidence. Et au point de vue certitude, la négation est première. Pourquoi? Parce que dans la négation, vous vous exaltez. Et c'est vrai. Dans toute négation, vous vous exaltez. Quand vous critiquez quelqu'un, vous vous exaltez. Vous passez devant. Inconsciemment, peut-être, de temps en temps, mais quelquefois très consciemment, vous niez. Tu as bien vu cette personne comme elle est méchante. Tu as bien vu cette personne, combien elle se trompe, combien elle est jalouse. Vous voyez, dès qu'on on critique quelqu'un, on passe devant. Dans la négation, on nie la réalité pour s'exalter. Dans la négation. Dans la négation, vous êtes le seul à rester, puisque vous avez nié le combattant. Vous avez nié la réalité. Donc vous êtes le seul. Vous vous exaltez. Alors voyez, c'est une chose très curieuse. Je pose ça en question, hein, sous-jacente. La question de l'un serait au fond, la manière la plus élégante de s'exalter. je ne prouve pas Dieu par là. Husserl, qui met l'un avant l'être. Lorsqu'il s'agit de Dieu, il dit « Dieu est une valeur, la valeur suprême ». Si vous regardez bien ce que c'est que la valeur, vous voyez que la valeur, c'est encore vous. C'est votre intelligence qui affirme la valeur. La valeur, c'est toujours relatif aux autres. Donc c'est mettre Dieu relatif à nous. Quand on dit Dieu la valeur suprême, Dieu est ma valeur suprême. Je fais cet honneur à Dieu de considérer qu'il est ma valeur suprême. Et j'honore Dieu en reconnaissant qu'il est ma valeur suprême. C'est très curieux. Et c'est donc quand l'un est affirmé avant l'être que je ne peux plus prouver l'existence de Dieu. Je m'exalte. Et la grande façon de m'exalter, c'est d'affirmer Dieu est la valeur suprême. Ça a été dit, hein. c'est pas imaginatif ce que je vous dis. C'est Husserl qui dit ça, dans ses inédits. C'est quelque chose de très curieux. Je crois que c'est un problème très, très fondamental qu'on regarde, de rechercher ce qu'est l'un. C'est un problème très fondamental. Et la dernière considération, c'est que l'être, tout de suite, se distingue de la manifestation. Quand je dis ceci est, je ne manifeste pas l'être, je l'affirme. Tandis que l'un est la manifestation. L'un ne peut exister que dans une manifestation, que grâce à ma pensée. Et c'est pour ça qu'il y a dans l'affirmation de l'un antérieur à l'être, la manifestation de l'être avant l'être. Vous voyez, le défaut de la modernité, c'est de mettre la manifestation avant l'être, la phénoménologie. C'est le logos de la manifestation. Et le logos de la manifestation montre qu'on met la manifestation avant. C'est pour ça qu'on aime tellement les manifestations. C'est très curieux, c'est passé dans le courant. Et quand on a fait une manifestation, on peut se reposer. J'ai manifesté, très bien, j'ai fait mon devoir. Mais non, la manifestation, c'est très bien, pour un moment. Et ça ne change rien. C'est notre monde d'aujourd'hui où l'un est avant l'être, parce qu'on est un monde mathématique, où la pensée mathématique a remplacé la métaphysique. Et la pensée mathématique remplaçant la métaphysique, c'est la phénoménologie qui remplace la métaphysique. Et combien actuellement considère que Hegel est avant Aristote. Il faut qu'on fasse une nouvelle théologie en se servant de Hegel. Vous voyez ? C'est curieux de voir l'origine de tout cela et de voir comment ça touche très profondément ce premier regard sur l'être, Platon, Aristote. Bon, ceci sert de point de départ pour vous montrer qu'on touche un problème qui va très loin et qui touche les arcanes de notre intelligence, la vie de notre intelligence, où se situe dans notre vie intellectuelle le point de vue de la découverte de l'un, à la différence de la découverte de l'être. Et les conséquences de cette primauté de l'un sur l'être m'empêchent de découvrir Dieu. Les preuves, les découvertes de l'existence de Dieu me montrent que l'être est ce qu'il y a de premier. Essayez de découvrir Dieu par la primauté de l'un. Vous verrez que c'est impossible. Et nous affirmerons Dieu comme la valeur suprême du ciel. Et alors, reprenons tout à la racine. Essayons de voir ce qu'il a au plan philosophique. En face de cette exaltation de l'un dans la phénoménologie, en face de cette exaltation de l'un chez tous les néo-platoniciens, en face de cette exaltation de l'un chez les mathématiciens, Husserl et la phénoménologie. La première chose que je dois faire, je pars de mon expérience et la première chose dans l'expérience, c'est le langage. Le langage doit m'aider à découvrir la vérité. Je ne m'arrête pas au langage, hein, mais je m'en sers. C'est un petit signe. Le langage est un signe de ma pensée. Normalement, la pensée est antérieure au langage. Il y a des gens qui pensent uniquement en parlant. Il y a des gens qui pensent avant de parler. Il y a deux catégories d'hommes. Ça se voit très fort dans les assemblées. Dans les assemblées, si vous êtes intelligent et vous suivez l'assemblée en disant je vais m'instruire, vous voyez tout de suite deux catégories. Catégorie de ceux qui pensent et qui parlent. Catégorie de ceux qui parlent et qui pensent. Il ne faut surtout pas le dire. Hein. Mais c'est une chose intéressante parce que normalement, je crois qu'on est tous d'accord qu'il faut penser avant de parler. N'est-ce pas ? Normalement, nous méditons, nous contemplons. Vous voyez, ça a d'immenses conséquences, vous voyez ça. C'est très simple au point de départ, mais beaucoup pensent par la parole. C'est pour ça qu'on met le dialogue avant tout. Il faut dialoguer. Mais non, il faut penser. Il faut contempler. Et vous ne contemplez pas dans un dialogue. Votre dialogue vous empêche de contempler. La contemplation est antérieure. Elle est dans la solitude. Vous voyez ? Pourquoi on a tellement de peine d'entrer dans la solitude et qu'on la fuit dans notre monde d'aujourd'hui? On la fuit parce que on dialogue, c'est-à-dire qu'on pense en parlant, ou plus exactement, grâce à la parole, on pense. Notre monde est comme cela. Oui, la télévision aide à parler. Dans quelle mesure elle aide à penser ? on est inondé de la parole. Et on a beaucoup de peine à redonner à la parole sa signification de témoignage. Parce qu'on parle, on parle. Et il n'y a rien derrière. Alors, le philosophe s'aperçoit dans la parole que toujours la négation présuppose une affirmation. Dans la parole, dire « ceci est » est antérieur à dire « ceci est un ». Je crois que ceci est facile à comprendre. Et je crois que ceci est vrai dans toutes les langues. « Ceci est », c'est le nom et le verbe. Toute proposition implique le nom et le verbe. Et dans le nom et le verbe, c'est suffisant pour l'affirmation. Ceci est. Ceci, c'est le sujet le plus universel qui soit. Et le verbe être est le premier de tous les verbes. On est donc dans l'affirmation « ceci est », on est en face d'une affirmation tout à fait première. Vous ne pouvez pas avoir une affirmation plus simple, plus primitive, plus fondamentale que celle-ci. « Ceci est ». Parce que ceci, c'est tout, hein, c'est n'importe quoi, c'est ceci. C'est ce qui est capable d'être expérimenté. Le ceci. Ce qui peut se montrer. On dit que Jean-Baptiste est le premier des prophètes parce qu'il peut dire « Voici l'agneau de Dieu. Voici. Indiqué. » Tandis que les autres prophètes, c'est du futur. Lui indique le réel. Ceci, voilà, ceci est. Tandis que lorsque vous dites « ceci n'est pas », ah, il y a la négation qui s'ajoute. La négation, qu'est-ce que c'est que la négation? C'est le fruit de votre pensée. Vous n'avez jamais rencontré la négation. Vous avez rencontré beaucoup d'êtres, beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes, beaucoup de personnes. Tout ça, c'est ceci, ceci, ceci. La négation, c'est votre intelligence. Psychologiquement, vous savez bien qu'on distingue un âge où les gosses commencent à nier. Il ne dit pas, il s'accroche, très curieux, sa main s'accroche tout de suite. Et puis là, quand on a des lunettes, ça l'intéresse beaucoup. Alors on se dit, oh, il s'intéresse toujours à moi, mais non, il s'intéresse à vos lunettes. C'est pas la même chose, ça l'intéresse. C'est quelque chose, c'est vrai que quand les parents n'ont pas de lunettes, si la mère a des lunettes, alors c'est congénital. C'est l'être sans lunettes qui l'intéresse. Mais... Faites cette petite expérience. Hein. C'est très amusant. Et il y a un âge où le gosse nie. Il nie tout. Il aime nier. Et il faut faire attention. Il faut qu'il dépasse sa négation. C'est un progrès. Quand il dit non, il commence à penser. Tandis que quand il accroche, les gens, je ne sais pas s'ils pensent. C'est vrai. Tandis que quand il dit non, il prend du recul, il s'efface. Ou plus exactement, l'objet qui est en face de lui doit disparaître. Non. Il ne veut pas parler. Il tourne la tête. La négation, c'est l'intelligence qui nie l'objet. Et par le fait même, exalte le sujet. Le premier moment de l'exaltation du sujet, c'est la négation. Notre exaltation est née de la négation. Vous voyez, c'est Sartre qui dit ça. Hein. C'est juste au point de vue génétique. C'est pas vrai au point de vue philosophique, mais c'est juste au point de vue génétique. Sartre reste à un niveau génétique. Et c'est vrai, c'est ce qu'il y a de premier. Quand vous niez, vous exaltez. Et l'exaltation du sujet provient du fait qu'on nie l'objet. On le rejette. Je n'existe pas. On s'exalte. Bon. Le langage montre que l'affirmation de l'un présuppose... présuppose la négation de l'être. Ceci n'est pas. Pour dire ceci n'est pas, ça présuppose l'affirmation de ceci est. C'est évident. Sartre va dans le café et dit « Pierre n'est pas là ». Ça prouve que il avait affirmé Pierre est là. Pour dire que Pierre n'est pas là, il faut avoir dans son cœur affirmé qu'il est là. Et qu'en réalité, il n'est pas là. Donc, selon le langage, le point de vue de la négation vient en second lieu. Et pour affirmer que quelque chose est un, il faut affirmer qu'il n'est pas composé. Il faut affirmer qu'il n'est pas divisé. L'un est indivisé et indivisible. Donc, vous voyez, d'après le langage, que l'affirmation étant première, reconnaître l'existence de l'être, c'est premier. Affirmer que cette réalité est une, cela implique une négation. Cela n'est pas divisé, il est un, indivisible. Je crois que c'est la première constatation. Et nous pouvons tous comprendre ça. Et ce n'est pas suffisant, hein. C'est la manifestation. Manifestation de l'être se fait par l'un. Par le parus du langage. Je vois que l'être est premier dans le langage. C'est très important, ça. Parce que, voyez, dès que vous affirmez que l'un est premier par rapport à l'être, vous affirmez que tout votre langage est menteur et n'exprime pas ce que vous pensez. C'est terrible, ça. Parce que, quand même, ce que vous dites reflète ce que vous pensez. Normalement, c'est comme ça que votre parole est vraie. Votre affirmation est vraie si elle reflète ce que vous pensez. Si dès le point de départ, votre langage ne correspond pas à votre pensée, comment pouvons-nous rejoindre votre pensée ? Est-ce que toujours votre langage ne correspond pas à votre langue, ne correspond pas à votre pensée, ou bien quelquefois? C'est un problème très très important, ça. Est-ce que votre langage est première? Est-ce que votre pensée dépend de votre langage? Ou est-ce que votre langage dépend de votre pensée? Donc on est là devant un problème très simple, très primitif, mais très important. Si votre langage dépend de votre pensée, c'est net. Dans votre pensée, l'affirmation de l'un est postérieure à l'affirmation de l'être. Et donc, si votre langage est signe de votre pensée, c'est ça que vous devez affirmer, que l'affirmation de l'être est première. C'est la première expérience que je fais, à laquelle je reviens tout le temps. Ruminer votre pensée dans tous les sens, votre parole dans tous les sens, vous verrez que toujours la négation implique l'affirmation, explicite ou implicite. Dans l'ordre pratique, ça peut être implicite. Mais quand vous allez au marché et que vous dites « Ah, il n'y a pas de carottes », ça prouve que vous cherchiez cela pour dire qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a des quantités de choses qui ne sont pas là. Et donc ça prouve que vous cherchiez ça. Et vous exprimez le refus, le désespoir. Deuxièmement, j'essaie de comprendre au-dedans de moi-même mon expérience intime de moi, puisque vous avez ceci est et vous avez je suis. Husserl, le « je suis » est avant ceci est. Vous ne pouvez affirmer ceci est que parce que vous avez affirmé « je suis ». Est-ce que c'est vrai? Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez l'affirmer les deux. Ceci est et je suis. Nous avions déjà vu ça au début de la métaphysique. Hein. On peut le reprendre maintenant d'une autre manière et pour réfléchir sur l'un et l'être. Quand vous dites « je suis », vous avez l'intériorité. Vous dites ça étant seul, je suis. Tandis que quand vous dites ceci est, c'est toujours pour affirmer l'autre. Quand vous dites je suis, vous voyez qu'en vous, il y a une très grande complexité. Je suis éveillé. Ça prouve qu'avant, vous étiez dormant. Je suis me nourrissant, mangeant. Je suis travaillant. Et après tous ces « je suis » qui prennent des modalités différentes, vous arrivez à pouvoir dire « je suis ». Vous passez de toutes ces modalités dans lesquelles vous êtes à quelque chose de plus radical, de plus profond qu'est vous. Constatez donc qu'il y a en vous multiplicité, et au-delà de cette multiplicité, il y a l'unité, je suis. C'est moi. Dans mon unité. C'est une constatation très simple et très importante. La multiplicité de votre je suis est évidente. Je suis éveillé. Vous ne pouvez pas dire je suis dormant. C'est un autre dira avant que vous éveilliez, tu dormais. Et quand vous dormez, vous n'avez pas dit je suis dormant. Non. Vous étiez en dehors de cela. Vous êtes après travaillant, mangeant, priant. Il y a donc une complexité et une multiplicité de votre être, du « je suis » qui apparaît tout de suite, qui se manifeste tout de suite. C'est curieux. Votre être est multiple et cependant, au-delà de cette multiplicité, vous avez vous, je suis. Dans le je suis, au sens fort, profond, il y a l'unité. Vous voyez, c'est comme cela que Husserl définit le sujet. C'est intéressant, hein, c'est le sujet, c'est la personne, c'est la substance. Alors on définit la substance comme le sujet. Vous voyez, on ne le définit pas du tout comme nous avons essayé de le faire, comme un principe qu'on saisit dans la réalité de ce qui est, mais il le saisit à partir de cette multiplicité du je suis, qu'il y a quelque chose de plus fondamental, de premier, qui est je suis moi. C'est moi qui suis travaillant, mangeant, priant. Et d'une certaine façon, je suis au-delà de toutes ces modalités. Et en étant au-delà de toutes ces modalités, je découvre mon je suis dans sa pureté. Vous voyez que découvrant mon je suis dans sa pureté, je vois que là, il y a unité. Parce que je suis, je ne suis pas un autre. Si je suis travaillant, c'était parce que ma réalité, mon moi, était relatif à quelque chose d'autre. Relatif à cette matière que je transformais en travaillant, que mon moi était relatif à l'aliment que je prenais et que je mangeais, que le moi était relatif à ma parole, que je n'étais pas dans ma parole, c'était une modalité de mon être. Et je suis est à la racine de tous. Et mon je suis est un. Ah, est un. C'est pas entièrement juste. Parce que mon je suis implique mon âme qui réfléchit. Et mon corps qui sent. rectangle. Dans mon je suis, je n'ai pas en réalité une simplicité et une unité. J'ai une complexité. Une complexité qui est évidemment beaucoup plus simple que ma composition. Dans je suis travaillant, je suis mangeant, il y a quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus fondamental. Mais c'est complexe aussi. Ce n'est pas simple. Au fond, dans le je suis, il n'y a jamais une simplicité absolue. Il y a toujours une certaine complexité. Une union entre la pensée et la manière dont je pense. Une union entre ma vie intérieure et cette vie qui apparaît aux autres. Dans le je suis, je n'arrive jamais à l'unité. Et j'affirme mon existence. Ah, mon existence est donc antérieure à mon unité. Je ne mets pas en doute mon existence. Et en même temps, je n'ai pas l'expérience de l'unité. Je suis complexe. Je suis composé. J'ai donc une expérience de mon existence, je suis plus profonde, plus radicale que celle de l'unité. Donc, que je regarde le jugement d'existence, ceci est, que je regarde mon jugement d'existence, je suis, des deux côtés, l'affirmation de l'être apparaît comme plus fondamentale.